Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur Graphite 94.9 FM autour de Compiègne ou sur graphite.net. Je suis Stéphane et je suis en studio avec Afsa, Nathan, Aeva, Evan et Charlène. Bonjour à tous les cinq.
Bonjour.
Bonjour.
Alors cet après-midi sur Graphite, on présente les projets du cours IS03, low-techisation et numérique. Donc les étudiantes et étudiants ont travaillé tout ce semestre sur un projet donc, de low-techisation en lien avec le numérique. Alors ça veut dire quoi low-techisation en lien avec le numérique? Ça veut dire que l'idée c'est soit de prendre un objet numérique et de voir comment on peut le modifier, le repenser selon des valeurs et des paramètres sociaux et environnementaux, ou voir comment est-ce qu'on peut mobiliser le numérique pour contribuer à low-techiser d'autres pratiques. On a vu par exemple dans le projet précédent comment l'utilisation de capteurs numériques montés sur des piquets pouvait aider à low-techiser l'agriculture dans une perspective agroécologique. Donc là, on a parlé précédemment d'agriculture. On va traiter présentement d'un autre pan fondamental de notre humanité, celui de la santé, avec donc un projet autour de la low-techisation de l'hémodialyse. Alors, que font les étudiants dans le cadre d'IS3 ? Eh bien, ils commencent par une phase de documentation, de recherche sur le sujet. On appelle ça un état de l'art. Puis ensuite, ils font une phase d'idéation. Ils explorent différentes pistes. Puis du maquettage sous forme de petites histoires. On en aura probablement un extrait tout à l'heure. Et ensuite, une phase d'évaluation réflexive pendant laquelle ils vont essayer de réfléchir à autocritiquer leur projet. Idem, on va en avoir quelques aperçus. Eh bien, je vais vous laisser la parole. Et donc, on va commencer par donner la parole à Afsa qui a assuré le co-encadrement de ce projet. Afsa, tu as la parole.
Merci Stéphane, bonjour. Je m'appelle Afsa, je suis néphrologue, c'est pour ça que je vais me permettre un peu de vous parler d'hémodialyse et de vous introduire le sujet et ce qui a motivé le fait qu'on travaille sur ces questions-là. Donc d'abord, juste pour vous recontextualiser, les reins sont des organes qui jouent un rôle vital dans le maintien de l'équilibre de ce qu'on appelle le milieu intérieur. Puisqu'ils ont des fonctions de filtration du sang qui permettent d'éliminer les déchets, les toxines produites lors du fonctionnement normal de votre organisme, d'équilibrer aussi la balance hydrique entre ce qui est bu et ce qui est éliminé, et puis d'équilibrer aussi tout un tas de concentrations en ions dans le sang, tout ça pour permettre le fonctionnement normal de l'organisme. Et donc la maladie rénale, c'est une pathologie à la fois grave et fréquente qui, dans sa phase terminale, peut conduire à un risque de décès élevé. Et dans ce contexte, les patients ont besoin de recourir à une suppléance rénale, donc c'est-à-dire à une technique qui va permettre de pallier au dysfonctionnement de leurs organes natifs. Le meilleur choix qu'on puisse leur proposer aujourd'hui, c'est la greffe rénale, mais malheureusement, elle n'est pas accessible à tous, notamment en raison d'une pénurie de greffons. Et donc pour ces patients-là, on a recours à une technique artificielle entre guillemets qui s'appelle qui fait de l'épuration extrarénale et qui s'appelle l'hémodialyse. Et donc avant d'aller un petit peu plus loin, je vous propose d'écouter le témoignage d'une patiente atteinte de maladie rénale chronique qui va vous parler de son parcours.
Je m'appelle Anne, moi je suis malade depuis l'âge de 20 ans par une maladie auto-immune. J'ai perdu mes reins, également un cancer du rein. Donc j'ai été greffée une première fois à 45 ans d'un greffon donneur décédé. Je n'ai pas été dialysée, c'était une greffe préemptive. Et puis j'ai perdu mon greffon l'année dernière suite à la quadruple vaccination contre le Covid pour qu'on fasse des anticorps. Donc ça a été extrêmement compliqué pour moi. J'ai fait un syndrome néphrotique suite à ça. J'ai une maladie auto-immune, donc voilà, ça a été la cata. C'était une histoire de balance bénéfice-risque et il fallait absolument se protéger contre le Covid. Voilà. Puis j'ai perdu donc petit à petit mon greffon et je dois aujourd'hui dialyser. Je suis dialysée depuis à peu près un an et demi à nouveau réinscrite sur liste de greffe pour une deuxième greffe.
Donc voilà, c'était le témoignage d'Anne et on l'en remercie. Et donc l'hémodialyse, c'est la technique de prise en charge la plus largement utilisée aujourd'hui. Ça concerne à peu près 90% des patients dialysés. Et donc on parle d'à peu près 50 000 patients en France. C'est une technique qui consiste en fait à filtrer le sang à travers une membrane de dialyse qu'on appelle le dialyseur, qui va jouer en quelque sorte le rôle du rein, grâce à un système qui fait circuler le sang en dehors du corps du patient, puis qui le lui restitue. Vous allez avoir un transfert de ces substances toxiques à épurer au travers de la membrane, depuis le sang, vers un liquide spécifique qu'on appelle le dialysat. Et donc le déploiement de cette technique, ça requiert un certain nombre d'équipements et de consommables médicaux, dont une grosse machine qu'on appelle le générateur d'hémodialyse. Cette technique, elle a été inventée en 1920 et depuis, les pratiques, les équipements et les dispositifs médicaux ont beaucoup évolué et ça a permis de fait d'améliorer la qualité de prise en charge et la sécurité du patient. Et ces avancées techniques, elles étaient en fait portées par des politiques de recherche et de développement de grands groupes industriels notamment, qui s'inscrivent dans une démarche à la fois de high-technicisation et de généralisation de l'usage unique. Et donc, on va avoir des conceptions de machines qui sont de plus en plus complexes, qui intègrent de plus en plus de technologies numériques et répondent à un objectif d'automatisation continue d'un certain nombre de procédés. De l'autre côté, dans le contexte de bascule écologique qu'on vit aujourd'hui et d'une réalité matérielle qui est la finitude des ressources, qui sont deux données qui s'imposent à nous et avec lesquelles on ne pourra pas continuer à négocier indéfiniment, la diffusion à large échelle de l'hémodialyse, en réponse à une demande de soins toujours croissante, elle vient se heurter aujourd'hui à un certain nombre de paradoxes et de contradictions qui peuvent être d'ordre environnemental, socio-économique, mais également éthique et philosophique. Je vous en donner quelques exemples qui seront détaillés plus tard, notamment le coût environnemental de nos pratiques, leur caractère non soutenable à long terme, le fait qu'on soit dépendant à des industries lourdes comme les industries du secteur de la santé ou une certaine forme d'inégalité d'accès aux soins. Et donc, face à ces constats, à la fois en tant que soignant et en tant que concepteur de ces dispositifs de soins, on s'interroge sur la façon dont sont organiser les offres de soins actuelles et comment elles sont en capacité à répondre en fait à une prise en charge des patients dans leur globalité, tout en répondant à un certain nombre d'exigences telles que la durabilité, la résilience, la justice sociale et l'équité. Et donc, dans ce contexte, est-ce que la low-techisation de l'hémodialyse, ça peut apparaître comme une voie de réponse possible à ces problématiques? Et si oui, comment est-ce qu'on pourrait l'imaginer? Et donc, ça a été le travail de Nathan, Eva, Charlène et Evan qui vont vous présenter les résultats de leurs recherches et de leurs réflexions. Donc, je leur passe la parole.
Merci, Afsa. Afin de bien comprendre la problématique de ce projet, nous avons dû faire quelques recherches. Ces recherches nous ont permis de comprendre le principe de l'hémodialyse que Afsa vient de vous présenter. Ces recherches nous ont également permis de comprendre les enjeux de la santé dans les domaines écologiques et sociaux. En effet, selon un article intitulé « Les soins de la santé high-tech sont-ils écologiquement durables ?» publié dans le Low-Tech Magazine et écrit par Chris de Decker en 2021, la santé est un secteur qui pollue massivement et de plus en plus. Cela est dû d'une part à la consommation importante de ressources telles que les énergies fossiles, les métaux, l'eau et l'électricité. L'exploitation de ces ressources est nécessaire au fonctionnement des infrastructures de soins. Elle sert aussi à la production d'équipements médicaux complexes et de dispositifs médicaux dont une grande partie sont à usage unique. Sans compter les milliers de références de médicaments disponibles aujourd'hui sur le marché. Pour illustrer ce propos, je vous propose un extrait d'une interview que nous avons réalisée avec Élise Mention, infirmière en hémodialyse à l'hôpital Tenon de Paris.
Travaillant, je me rendais compte que c'était assez ahurissant la quantité de déchets qu'on produisait par jour à force de jeter, parce qu'en plus c'est beaucoup d'usage unique, enfin, quasiment que ça en dialyse, même partout dans l'hôpital à vrai dire, mais c'est vrai qu'en dialyse on a quand même un turnover de patients qui est tellement énorme. Il y a 3 séances de dialyse par jour et en fait, ça me choquait tout ce que je jetais en fait en continu. Et du coup, c'est vrai que ça m'a interpellée et je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de diminuer ces déchets, enfin de trouver des alternatives, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas du tout dans le soin, c'est encore tout récent, tout ce qui est question d'écologie et tout, les gens ont du mal à se projeter, etc.
Comme vous l'avez entendu, ces processus sont responsables d'un impact environnemental majeur. Émissions de gaz à effet de serre, pollution atmosphérique, rejet de plastique et de composants chimiques toxiques. Cependant aujourd'hui, il est difficile de réduire les coûts environnementaux de la médecine car il s'agit d'un secteur trop important pour arrêter certaines productions et recherches. Cet article nous appelle donc à repenser l'organisation de nos systèmes de soins et à remettre en cause nos problèmes de santé, qu'ils soient physiques ou mentaux. Il s'agit ici d'un cercle vicieux, car en même temps qu'elle s'efforce de prendre en charge les patients, la médecine moderne, par son impact environnemental, participe à la dégradation de nombreux déterminants de santé. Les hôpitaux sont par exemple des grandes sources d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui peut entraîner des maladies respiratoires telles que l'asthme. De plus, les déchets pharmaceutiques peuvent polluer les sols et les eaux, pouvant provoquer des maladies chroniques. En plus de cela, s'ajoute un autre problème, la compétitivité. Selon le rapport de l'UNESCO sur la science publié en 2021, intitulé « Une course contre la montre pour le développement plus intelligent », les pays associent transition numérique et transition écologique. La science et le numérique sont donc considérés comme des facteurs de compétition entre les pays. C'est pourquoi le développement de la science et de la médecine sont principalement axés sur le déploiement de technologies complexes qui nécessitent certaines ressources coûteuses pour l'environnement. Par exemple, lors de la crise de la Covid-19, les entreprises Pfizer, Moderna et AstraZeneca ont toutes les trois fait une course à la vaccination. Elles ont donc toutes les trois investi massivement dans la technologie et la recherche pour développer un vaccin. Un autre problème est l'inégalité mondiale en ce qui concerne l'accès aux soins, selon un rapport intitulé « Journée mondiale de la radiographie, les deux tiers de la population mondiale n'ont pas accès à l'ingénierie médicale » de l'OMS. En effet, selon les pays à faible revenu, dans les pays à faible revenu, les patients meurent de maladies facilement curables par manque d'accès à un diagnostic efficace et au traitement. La plus grande difficulté dans la recherche de l'égalité en matière de soins est que les pays à faible revenu n'ont pas les moyens de s'acheter des équipements plus sophistiqués. Et même si c'était le cas, le coût des prestations médicales augmenterait et ceci rendrait l'accès aux soins également compliqué. De plus, certaines conditions climatiques extrêmes rendent cet accès aux soins limité. Prenons l'exemple de l'article intitulé « Détecteur d'imagerie à rayon X pour applications radiologiques adaptées au contexte et aux exigences de pays à faible revenu et intermédiaires ». Il est écrit que les détecteurs disponibles dans le commerce, qu'il s'agisse d'écrans plats ou de réseaux de détecteurs à caméras multiples pour l'imagerie médicale, nécessitent généralement des températures ambiantes d'environ 25 degrés et des températures de fonctionnement maximale de 35 degrés Celsius à des niveaux d'humidité relative compris entre 30 et 70%. Cela constitue un facteur limitant pour la mise en œuvre dans de nombreuses régions d'Afrique où les températures moyennes dépassent régulièrement les 35 degrés, atteignant même parfois les températures de plus de 50 degrés et où l'humidité relative atteint des niveaux de plus de 80%. Pour faire le lien avec l'hémodialyse, certains pays n'ont pas accès à la quantité d'eau nécessaire pour la dialyse. La dialyse, qui n'est pas réalisable dans des conditions climatiques extrêmes et demande beaucoup de ressources, que ce soit pour la production des appareils de dialyse que pour le traitement en lui-même. Nous nous sommes donc penchés sur trois objectifs afin de lotéquiser l'hémodialyse. Comment réduire l'impact environnemental de l'hémodialyse? Comment rendre l'hémodialyse plus accessible? Et comment répondre aux futures contraintes posées par le changement climatique pour assurer la pérennité de l'hémodialyse dans les pays où elle est déjà présente? Pour cela, nous avons réfléchi à plusieurs idées. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse avec Aeva et Evan qui vont vous présenter deux d'entre elles.
Je vais commencer par mettre l'emphase sur un point fort et incontournable du générateur d'hémodialyse lotéquisé, qui est sa consommation d'eau. Je vais donc vous raconter l'histoire qui illustre cet aspect du projet. Jacques est technicien de dialyse depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire qu'il s'occupe de la maintenance des appareils relatifs à la dialyse et donc du générateur d'hémodialyse. Il a récemment découvert le générateur d'hémodialyse lotéquisé et c'est pour lui une création révolutionnaire, surtout dans le contexte écologique actuel. Il fait donc la distinction entre les deux équipements, les anciens et les nouveaux. Pour pouvoir se rendre compte des différences entre les deux appareils, il effectue quelques calculs pour estimer les économies d'eau effectuées avec les nouvelles machines. Il obtient au final qu'entre l'eau requise pour la production du dialysat lors du traitement et la désinfection de l'équipement, ce sont 377 litres d'eau de ville qui sont nécessaires pour une séance d'hémodialyse avec l'équipement utilisé à l'heure actuelle dans les centres d'hémodialyse actuels. En faisant les mêmes calculs, on obtient seulement 120 litres d'eau nécessaires pour une séance de dialyse avec le générateur d'hémodialyse lotéquisé et grâce à la modernisation du traitement d'eau qui sert à la production de l'eau ultra pure utilisée lors du traitement pour la reconstitution du dialysat. La fonction ici qui est mise en avant est que le générateur d'hémodialyse lotéquisé permet d'économiser 257 litres d'eau. Les valeurs mises également en avant par cette histoire sont soutenabilité et ressources. Grâce à ce système en circuit fermé, c'est la consommation d'eau qui est divisée par deux. Les leviers sont apportés par cette histoire sont optimisés et analyses. La diminution de la consommation d'eau, oui, pardon, désolée, je me suis perdue. La consommation d'eau est diminuée. Et elle permettrait également à certains pays d'avoir accès, avec un accès réduit à l'eau, à avoir accès à ce traitement. Les tensions évoquées par, par cet aspect du projet sont les tensions externes, sont soutenabilité et progrès, puisque, le progrès des générateurs des modialyses actuelles est stoppé car il y a une redéfinition des standards de soins. Pour que cette histoire soit plus compréhensible, je n'ai pas spécifié tous les calculs, parce qu'il y en a beaucoup. Mais si vous voulez connaître les détails, tout est expliqué sur le site du projet, dans la partie maquettage, dans l'histoire consommation d'eau.
Merci à Eva. Et donc, c'est Evan qui prend la suite pour une nouvelle histoire, n'est-ce pas ?
Oui. Merci à Eva. Donc, à mon tour, je vais vous raconter une petite histoire pour donner un peu de contexte. Une histoire qu'on a baptisée « Un générateur résistant pour tous ». Donc, qui raconte l'histoire sur l'usage des générateurs d'hémodialyse dans des pays en développement. Donc, on a pris l'exemple de Juan, qui serait infirmier au Guatemala et qui travaille dans un centre d'hémodialyse. En effet, les générateurs d'hémodialyse lotéquisés sont désormais opérationnels dans ce pays. Donc, ils sont résistants aux conditions tropicales extrêmes telles qu'une température supérieure à 37 degrés Celsius ou encore résistants à un taux d'humidité trop élevé grâce à l'application d'un mince film polymère sur le circuit imprimé afin de les protéger de l'environnement et de la corrosion. Une fois la séance d'hémodialyse enclenchée, donc, les machines fonctionnent de manière stable et sans perte d'efficacité, assurant un traitement efficace pour chacun des patients. Cela permet un fonctionnement optimal du générateur, même lorsque les taux d'humidité de l'air sont très, très élevés, comme c'est souvent le cas dans ces régions du monde. À la fin de la journée, Juan quitte le centre de dialyse avec un sentiment de satisfaction. Il sait qu'il peut compter sur des outils robustes pour offrir des soins vitaux aux citoyens de son pays, et ce, peu importe les conditions climatiques difficiles. Ainsi, le générateur d'hémodialyse lotéquisé permet aux hôpitaux d'assurer une séance de dialyse sans danger aux patients, et ce, même avec une température ou une humidité ambiante élevée. Ça se base sur des valeurs telles que la responsabilité pays développés envers ceux qui sont moins développés, parce que ce système résistant permettra une dialyse plus facile et plus sûre dans les pays au climat tropicaux, relevant ainsi l'équité internationale dans le domaine de la santé. Pour cela, on s'est basé un petit peu sur l'analyse du cycle de vie, parce que grâce aux matériaux utilisés, la machine posséderait une meilleure durée de vie. Et enfin, il ne faut pas oublier que ça relève quelques tensions, telles que l'extraction des matériaux utilisés pour protéger le générateur, qui pourrait engendrer une pollution supplémentaire et augmentant ainsi l'impact environnemental négatif qu'a déjà le générateur d'hémodialyse. Ainsi, ces idées, avec toutes les valeurs qu'elles portent, amènent avec elles leur lot de questions et de critiques, et ce dont Charlène va vous en donner un extrait.
Merci Evan. Grâce à tout ce travail mené en amont, nous avons réalisé de nombreuses évaluations de notre projet qui nous ont permis de prendre du recul. Parmi elles, il y a eu le carré du soin, qui est un outil réalisé à partir des travaux de Xavier Guchet, dont l'objectif est de montrer comment ce projet contribue à une logique de soins. On parle ici de soins comme concept philosophique plus large que de sa signification médicale. Pour ce faire, quatre principes ont été étudiés, parmi lesquels se trouvent l'insertion dans la nature et la considération des humains dont je vais vous parler. Dans une démarche d'insertion dans la nature du projet et d'une transition écologique de l'industrie de la santé, le générateur d'hémodialyse lotéquisé a été imaginé pour diminuer considérablement sa consommation d'eau et d'électricité. Cependant, pour l'instant, en ce qui concerne les 2,5 kg de déchets qui sont produits par séance, il y a un véritable blocage car nombreux sont les pays qui interdisent un second usage du matériel médical. Malgré tout, il existe des possibilités afin de mettre en place des procédés de réutilisation et de reconditionnement, notamment grâce à l'entreprise Nutfiltration qui revalorise le dialyseur. Par ailleurs, dans la conception du générateur d'hémodialyse lotéquisé, il y a eu la recherche d'une vie en adéquation avec l'environnement, avec une véritable adaptation aux conditions climatiques des divers pays. En effet, dans le but de rendre ce générateur plus écologique, l'utilisation de panneaux solaires a été mise en place, une idée autant utile pour les pays où l'ensoleillement n'est pas le plus optimal, mais également particulièrement utile dans les pays beaucoup plus ensoleillés. Au-delà de cette consommation plus verte, l'usage de panneaux photovoltaïques permet de pallier aux diverses coupures d'électricité qui peuvent toucher les pays à faible revenu. En ce qui concerne la considération des humains, une campagne de sensibilisation sera mise en place afin d'alerter la population sur l'adoption de modes de vie qui dégradent un certain nombre de déterminants de notre santé. En effet, en 2016, l'insuffisance rénale était la 16e cause de décès à l'échelle mondiale. En 2040, cette maladie deviendra la 5e cause de décès mondial. Ainsi, par la pratique d'une activité physique régulière, par une alimentation équilibrée, par une diminution de la consommation d'alcool et en évitant de fumer, la dégradation de notre santé et notamment de nos organes vitaux peut être considérablement diminuée, limitant ainsi le nombre de patients admis en hémodialyse par exemple. Par ailleurs, ce projet est bien plus qu'une mise en avant d'un dispositif médical lotéquisé, puisqu'il y a une véritable considération de l'humain à l'échelle mondiale. En effet, nombreux sont les patients qui ne peuvent pas recevoir un traitement de qualité à cause du manque de générateurs d'hémodialyse, par faute de moyens et par manque de résistance aux divers climats. Grâce à cette approche, il y a une meilleure insertion des pays à faible revenu, car ils coûtent 3 fois moins cher à l'achat et à l'entretien. Ils sont adaptés au climat tropical, mais également aux contraintes des pays, comme les pannes d'électricité ou le manque d'eau. Malgré une véritable volonté de lotéquiser les générateurs d'hémodialyse afin de les rendre moins énergivores, la finalité a toujours été la même, celle de soigner les patients. Chaque vie compte et ce dispositif médical en est la preuve par son adaptation aux conditions climatiques et aux moyens de chaque pays. On voulait également remercier AFSA pour son soutien tout au cours du projet, parce que ça n'a pas été évident pour nous de tout comprendre et elle a été là pour appuyer nos questions, donc merci à elle.
Merci à tous les 5. Donc, merci à Afsa, à Nathan, à Eva, à Evan et à Charlène, pardon. Et merci à tous les 5. Hein, tu as sorti cette phrase, chaque vie compte. Hein, on voit bien que faire de la lotéquisation dans le domaine, je sais pas moi, de la fast fashion ou, voilà, c'est assez facile, mais on l'a vu avant en agriculture, on le voit là en santé, c'est des enjeux particulièrement sensibles, et je trouve que ça rend vraiment le travail intéressant, parce que AFSA l'a dit en introduction, mais même dans ce domaine, vous l'avez rappelé à plusieurs reprises aussi, hein, mais même dans ce domaine, d'une certaine façon, il y a pas le choix. L'autre point qui m'a paru aussi intéressant dans ce que vous avez présenté, c'est que, et qui je pense est quelque chose qu'on essaie de travailler dans le cadre de l'UV, c'est de sortir de l'idée de ce qu'on appelle parfois le solutionnisme, c'est-à-dire de se dire que, ben voilà, on a un problème, on va trouver une solution un peu miracle et que ça va tout régler. On voit bien là qu'à chaque fois, ben, on imagine des choses nouvelles, que ces choses nouvelles, elles posent de nouveaux problèmes. Et en fait, on est en permanence dans un cycle où on réintroduit des nouveaux paramètres et dans une complexité permanente. Hein, tu l'as cité tout à l'heure, même dans le cas de cet hémodialyseur lotéquisé, eh bien, il y aura besoin de mettre en place de nouveaux procédés qui vont à nouveau poser question. Donc, c'est l'idée de rester un petit peu toujours sur cette interrogation. Alors, il y a pas mal de questions. Il y a peut-être une. Je vais commencer par celle de Valentin, même si tu as déjà un petit peu répondu en quelque sorte, Charlène, mais il soulignait la difficulté. Peut-être particulière que vous avez eue dans le cadre de ce projet, puisque vous avez traité un domaine sur lequel, a priori, vous étiez encore plus novice, qui était celui de la santé. Donc voilà, est-ce que vous voulez ressouligner d'autres difficultés que vous avez eues, ou au contraire, finalement, c'était peut-être pas plus difficile qu'un autre projet, je ne sais pas.
Ce qui a été vraiment compliqué, je pense, ça a été tout l'aspect technique qui n'est pas que dépendant de l'industrie de la santé, mais qui est aussi dépendant du coup de toute la politique des différents pays. AFSA, ça a été un véritable soutien là-dessus parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de questions. C'est un sujet qui était très complexe à comprendre et on a eu beaucoup, beaucoup de choses à lire pour comprendre justement ce sujet et essayer d'adapter au mieux pour tous les différents pays en respectant les diverses politiques. Donc, on n'avait pas beaucoup de connaissances et finalement, je trouve qu'on s'en est quand même plutôt bien sorti. Et encore une fois, grâce à AFSA, parce qu'elle est vraiment impliquée dans ce domaine-là. Et il y a des projets en parallèle. Donc oui, ça a été plus évident pour nous grâce à elle.
Je voudrais juste rajouter, effectivement, je leur ai donné beaucoup de lectures, mais voilà, ils ont fait quand même preuve de beaucoup de passion pour le sujet et de beaucoup d'abnégation à essayer de comprendre en fait, les tenants et les aboutissants d'un milieu qui est extrêmement complexe. Et quand on travaille à l'intérieur de ce milieu, ça peut nous il y a des choses qui nous paraissent évidentes et d'une clarté vraiment limpide. Et ça a été... très intéressant, justement, aussi pour moi, mon travail de recherche, de voir comment ils se sont saisis de cette question-là et toutes les interrogations qui ont pu leur être posées, qui sont pas toujours évidentes quand on est immergé là-dedans tout le temps. Et donc, je voudrais aussi les remercier et leur dire bravo pour tout le travail qu'ils ont fourni.
Et ça montre, hein, je pense, un des intérêts du type de méthode qu'on travaille en IS3 et qu'on travaille dans d'autres contextes à l'UTC. Je pense par exemple à DI5 en analyse de la valeur ou dans peut-être aussi les HT avec Guillaume Carnino, qui sont des cours dans lesquels on essaie d'interroger justement les dispositifs techniques. Et on voit que même en étant relativement novice, puisque vous êtes encore de jeunes étudiantes et étudiants ingénieurs, on arrive à aborder les sujets et à contribuer, même modestement. Je continue avec les questions, une question un peu plus ouverte. Vous avez le droit de ne pas avoir d'idée, mais Elodie du groupe L'Ocyclopédia demande si il y a d'autres domaines, enfin si votre projet vous a amené à éventuellement imaginer d'autres domaines médicaux dans lesquels il y aurait la low-techisation qui serait imaginable. Évidemment, il n'y a pas besoin de... Non, on sait que vous n'avez pas été aussi loin sur ces questions, mais est-ce qu'il y a une ou deux autres pistes comme ça que vous avez ?
Alors, pour être honnête, on n'y a pas trop réfléchi parce que je pense qu'on s'est beaucoup concentré sur notre projet. Mais on a eu des contacts avec des infirmières que AFSA nous a conseillées, qui, elles, travaillaient vraiment dans le domaine médical. Donc oui, dans la partie hémodialyse, mais elles ont relevé aussi d'autres problèmes pour d'autres machines. Et l'un des problèmes majeurs, ça a été forcément les déchets. Donc... il y a d'autres phases il y a d'autres traitements qui peuvent être low-techisés, évidemment. Maintenant, lesquels, ça, je n'en ai aucune idée. Mais oui, évidemment, parce qu'on cherche toujours plus d'agtech et encore plus dans le milieu de la santé. Donc oui, évidemment.
Oui, c'est un des points, vous l'avez souligné tout à l'heure, mais notamment l'intrusion du numérique. Alors, je suis professeur d'informatique à l'origine, le cours c'est low-techisation et numérique. Il ne s'agit pas d'être contre les ordinateurs, mais on voit que l'intrusion du numérique dans l'ensemble des machines, effectivement, pose des problèmes, comme vous l'avez dit, de construction, de disponibilité et puis de réparation, par exemple.
Et puis si je puis me permettre de rajouter, il y a tous ces facteurs qui rentrent en compte, mais aussi la manipulation et l'utilisation, parce que ces infirmières nous ont confié qu'elles avaient beaucoup de mal et que l'utilisation et le moindre bug qui arrive sur la machine, en fait, ça leur fait perdre des heures de travail par jour et par semaine. Donc je pense, elles nous l'ont dit de toute façon, que ce soit dans l'hémodialyse ou ailleurs, il y a d'autres domaines de la santé qui ont besoin, je pense, d'être low-techisés.
Allez, peut-être une dernière question du groupe SOS Capteur, portée ici par Alissa, qui rappelle que dans le cours, en fait, on a vu plusieurs leviers de low-techisation. Donc celui classiquement utilisé en ingénierie, qui est l'optimisation. Et en quelque sorte, une bonne partie de votre projet ressemble à de l'optimisation. Il y a surtout, on va dire, c'est un peu le point de départ, parce que finalement, on ne va pas remettre en cause fondamentalement l'hémodialyse en tant que telle. On va chercher une machine plus adaptée. Mais elle précise qu'il y a d'autres leviers que sont imaginés et alertés. Alors moi, j'ai vu dans votre projet des choses qui relèvent de ces deux leviers, donc je ne sais pas si vous les avez en tête ou...
Oui, on a en effet imaginé une campagne de dépistage low-tech qui permet justement de dépister au cas où, pour les personnes qui accompagnent leurs proches au centre de dialyse, ça leur permettrait tout simplement de faire des tests pour savoir s'ils ont des problèmes de santé pouvant amener à la dialyse du coup. On a aussi pensé à une campagne de sensibilisation faite par des experts pour la population qui leur permettrait justement de connaître l'actualité en termes de la santé, de l'environnement et de la dialyse et de ce qu'en fait la santé coûte pour l'environnement en général.
Oui, c'est l'intérêt d'un projet comme le vôtre aussi, c'est que, bien comme vous l'avez dit, c'est couplé aussi la sensibilisation. Il ne s'agit pas juste de généraliser des actes ou des machines médicales, mais aussi de s'interroger sur les causes des maladies. Et puis la dimension à l'air, donc ça on pourrait dire que c'est quand même ça relève du domaine imaginé, d'essayer de réintervenir sur les modes de vie. Et puis dans le domaine alerté, on voit aussi qu'en imaginant ce genre de dispositif, ça peut amener peut-être à réimaginer au niveau politique des rapports aux soins, à la médecine qui puissent évoluer un petit peu. Et merci à tous les cinq. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot avant qu'on se quitte. Ok, et ben, voilà, donc des rires et des sourires dans le studio pour terminer, c'est très bien. Je rappelle à tout le monde qu'on peut retrouver la description approfondie de ce projet ainsi que de tous les autres qui ont été menés ce semestre sur le site lonum.fr, lownum.fr. Merci encore une fois à tous les cinq. On se retrouve d'ici 15 minutes environ pour un troisième projet de la journée, le projet Biomonitoring, pour un monitoring de la biodiversité éthique et responsable. Et donc là, c'était le groupe Hémodialyse Lotéquisé. Merci à tous les cinq, à bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.